après avoir rappelé l'infidélité, enfin plusieurs infidélités, mais l'infidélité d'Israël, qui explique que cette génération n'entrera pas dans la terre promise, mais ce sont vos fils qui entreront. Moïse va un peu plus vite et il raconte essentiellement la montée par l'est, hein, donc le chemin qui permet à Moïse et à Israël de gagner les steppes de Moab où il se tient présentement. Alors je vais assez vite, je résume. Donc Moïse dit on a fait demi-tour, on allait du côté de la mer de Souf. Pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne de Seir. Oui, de longs jours c'est 40 ans, hein, donc c'est vrai que ça fait un petit peu long. Alors après il dit bon ben maintenant vous avez assez tourné et vous allez traverser les territoires donc du sud au nord. Ça nous donne Édom, Moab et Ammon. À chaque fois d'un territoire à l'autre il y a un petit cours d'eau qui est perpendiculaire au Jourdain, la vallée du Jourdain qui sépare les territoires. Donc ça va être le Zered, l'Arnon et le Yabok, ou c'est le contraire. Enfin, en tout cas le Zered est tout en bas. Bon, alors ils remontent. Et Dieu leur dit, faut pas... comment dire, vous n'êtes pas là pour faire la guerre à ces peuples. Donc vous allez traverser leur territoire, mais en payant pour la nourriture. C'est pas leur terre que je vous donne. Mais enfin, il y en a un qui fait un peu la forte tête. Hein. Il y a toujours un gars, toujours la forte tête. Hein. C'est toujours un gars qui sera plus malin que les autres. Bon, tout le monde voit à qui je pense. Mais non, pas ici, vous êtes que gentil. Vous. Alors, donc, c'est un gars qui est le roi de Rechbon. Rechbon en hébreu moderne, ça veut dire la facture, je sais pas pourquoi, mais enfin, mais... C'est un type qui s'appelle Sion, je sais plus si c'est un I ou un Ret, mais... Bref, Sion ou Sihon, roi de Rechbon. Rachav, c'est penser. Un ordinateur en hébreu moderne, ça se dit Marchev, hein, c'est une machine qui pense. Et Rechbon, alors c'est parce qu'il a fallu calculer, il a fallu... Alors, est-ce qu'il y a un Rechbon, voilà, c'est le type qui pense trop, qui... bon, j'en sais rien, en tout cas, bon. Alors, Moïse leur dit, je veux simplement passer, les fils d'Ésaü n'ont pas fait d'histoire, les Moabites non plus. Donc on va passer, puis on va tout payer, enfin, il n'y a pas de problème. Mais je suis au verset 30 du chapitre 2. Sihon, roi de Rechbon, ne consentit pas à nous laisser passer chez lui. Car le Seigneur ton Dieu avait figé son esprit et endurci son cœur. En fait, un Dieu, c'est un motif, ça nous rappelle quoi, hein, cette histoire d'endurcir le cœur d'un ami d'Israël, le pharaon, hein, le chef de nous. Alors bon, c'est une certaine manière de parler de Dieu. Hein. On pressent que c'est pas le dernier mot de la théologie, mais. D'un côté, c'est comme si Dieu disait d'un côté aux Israélites, propose-lui de payer ton sandwich en passant comme ça, toi t'as montré ta bonne volonté, puis moi je vais endurcir son cœur, et du coup il va vouloir vous faire la guerre, mais comme c'est pas bien de vous faire la guerre, je vais vous renforcer et vous allez complètement le démolir et vous allez prendre sa terre. Bien pratique. Alors bon, le Seigneur dit, vois, j'ai commencé à te livrer Sihon et son pays. Il commence la conquête en t'emparant de son pays. Alors Sihon marcha à notre rencontre avec tout son peuple à Yaratz pour nous combattre. Le Seigneur, notre Dieu, nous le livra et nous le bâtîmes. Lui, ses fils et tout son peuple. Nous avons alors pris toutes ces villes et nous avons dévoué par anathème, anatitémie, hein, c'est ce que ça veut dire en grec. Ana, donc... Oui, en haut, merci, vous êtes creux en fait.
Ou on parle pas grec.
Non. Mais si, mais qui tout le monde a fait du grec parmi vous? C'est vrai? Oh bah c'est pas bien. Mais de l'hébreu quand même.
Couramment.
Oh, merde alors. Bon, et titémi, qu'est-ce que ça veut dire? Placer, poser, donc c'est placer en haut. En fait, c'est faire monter jusqu'en haut, c'est-à-dire offrir à Dieu. C'est beau, hein? Nous allons dévouer par anathème toutes ces villes d'hommes mariés, les femmes et les enfants. Oui. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'en fait, pour offrir à Dieu, on dégomme la personne, en fait. Hein. Mais en vrai, c'est très beau, hein, c'est très pieux. C'est, l'idée, c'est plutôt que de vous êtes en train de conquérir une ville, ou bien vous prenez le butin, donc les biens, les hommes, les femmes, tout ça, vous en faites vos esclaves, ou bien vous l'offrez à Dieu et donc vous tuez tout le monde, ça vous sert plus à rien, hein. Vous cramez tout. Et ça, c'est pour Dieu. Donc, alors, c'est ce qu'ils font. Ils veulent pas s'enrichir, Dieu est amour, ils veulent pas s'enrichir, donc ils tuent tout le monde. Hein. Tout le monde, hein, les hommes, les femmes, les enfants, ça c'est expliqué. Alors sauf le bétail, oui, qui fut notre butin avec les dépouilles des villes prises, ils ont quand même un petit quelque chose. Depuis Arouer, qui est sur le bord de la vallée de l'Arnon, ah oui, donc c'est l'Arnon, hein, donc ça va être Zered, Yabok et Arnon, ouais, c'est ça. Et la ville qui est dans la vallée jusqu'à Galaad, il n'y eut pas pour nous de ville inaccessible. Le Seigneur notre Dieu nous les livra toutes, toutefois du pays des Ammonites, n'approcha point, ni de la région du torrent du Yabok, ni des villes de la montagne, ni de tout ce qu'avait interdit le Seigneur notre Dieu. Bon, puis au chapitre 3, on continue. Alors c'est un peu étrange, hein, voyez, on commence à conquérir. C'est pas la terre de Canaan, donc c'est à l'est du Jourdain. Aujourd'hui, ça serait en Jordanie, ou peut-être en le sud de la Syrie, enfin bon. Mais comme c'est des fortes têtes, les mecs, tant pis, hein, du coup, Dieu les donne un peu en prime, en fait. Hein, donc, alors après, c'est Og, roi du Bashan. Alors là, le Bashan, ça c'est franchement en Syrie. Donc c'est une terre assez riche, hein. Il y a du bétail. Là, ça c'est plutôt une bonne prise, hein. C'est une bonne pioche, ça. Alors Og, donc pareil, c'est un crétin, donc il se rend pas compte qu'il va se retrouver en guerre contre Dieu. Il marche contre Israël. Et le Seigneur dit, ne le crains pas, car je l'ai livré en ton pouvoir. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, le roi amorite qui habite à Rechbon. Hein. C'est le chapitre 3 du Deutéronome. Alors le Seigneur, notre Dieu, livra aussi en notre pouvoir Og, roi du Bashan, et tout son peuple. Nous le bâtîmes si bien que pas un n'en réchappa. Hein. Non, ça... Puis en ce temps, nous nous emparâmes, oui, bon, toujours ce fameux passé simple, hein, je vous expliquerai, mais c'est quand même un passé composé, en fait. Donc de toutes ces villes, il n'y eut cité que nous ne l'aurions prise. 60 villes, c'est déjà du brousouf, hein, 60 villes. Hein. Donc une ville... À cette époque-là, hein, c'est, qu'est-ce que c'est qu'une ville, c'est protégé par une muraille. Il y a toujours une ville et puis autour, il y a des champs, enfin, des paysans qui élevagent. Et alors, quand c'est la guerre, quand il y a des razzias, quand il y a des trucs, hop, tout le monde peut se protéger dans l'enceinte. Une muraille, c'est... Enfin, une ville, c'est une muraille. Pas de muraille, pas de ville. Pas de bateau, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Toute la congrégation d'Argob. Oh, c'est drôle de nom. Hein. Royaume d'Og en Bashan. Toute place forte. Ah bah tiens. je suis formidable d'intuition. Toute place, j'avais pas lu le verset. Hein. Toute place forte fermée de hautes murailles, ni de portes et de barres. Sans compter les villes des Périsides fort nombreuses. Nous les dévoîmes par anathème. Donc, traduction, on a buté tout le monde. Comme nous avions fait pour Sion, roi de Rechbon, dévouant à l'anathème toutes ces villes d'hommes mariés, les femmes et les enfants. Mais tout le bétail et les dépouilles des villes furent notre butin. Alors, ça continue un peu, donc oui.
Hommes mariés. Pourquoi c'est important qu'ils soient mariés?
Non, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Ce qui arrive parfois, c'est que quand c'est des femmes mariées, on les tue, mais les filles pas mariées, on les garde. Ça dans le livre de Josué, mais là je sais pas. On peut peut-être dire que c'est pas des soldats aussi. Ainsi, en ce temps-là, avons-nous pris le pays aux deux rois amorites, d'au-delà du Jourdain, depuis le torrent de l'Ardonne jusqu'au mont Hermon. Tiens, y a une équipe qui s'appelle le mont Hermon d'ailleurs. Hein. Je suis allé au mont Hermon, je vais raconter déjà cette histoire. Il y a une base de Tsahal. C'est quand même, alors c'est très stratégique, hein, c'est sur le Liban, la Syrie, donc c'est sûr que ça, donc c'est une base militaire, mais enfin, donc j'étais avec Quentin, là, mon copain jésuite, il y en a qui le connaissent, et puis alors, c'est une bonne montée, on arrive là, et puis alors, donc, il y a un mec, c'est l'armée, quoi, qui est là, et puis qui barrait la route, nous on voulait juste faire 500 mètres pour aller de l'autre côté, prendre une super photo de tout le truc, alors bon, le gars nous dit... notre passade, enfin il le dit en hébreu, donc on commence un peu de parlementer. Puis il dit bah non, c'est une zone militaire, j'ai pas le droit de vous faire passer. Puis alors là, Quentin, qui est jésuite, hein, donc ils ont un rapport un peu spécial avec la vérité. Ils commencent à dire « Oh, mais quel dommage, on a fait tout ce trajet pour venir ici, je voulais prendre une photo. » Puis il était plus ou moins en train de m'expliquer quasiment que son père était mourant, que c'était sa grave. C'est absolument pas faux, enfin, pas vrai. Donc, truc, voilà, il attend que pour mourir de voir une photo du pays. Donc, le gars a dit « Bon, bah, écoutez, je vais regarder ailleurs. Vous y allez, mais vous revenez dans moins d'une demi-heure. » Et donc on y allait, on a pris la photo, puis on est revenu. Bon, c'est assez marrant. Alors, en fait, en théorie, on a le droit d'y aller, mais il faut demander une autorisation à l'état-major. Donc c'est très, c'est compliqué, il faut faire ça une semaine avant. Donc on n'avait pas le papier. Donc enfin, le gars a regardé ailleurs. Je vais regarder ailleurs, passer derrière moi. C'est magnifique ce coin-là. D'ailleurs, la prochaine fois que je vous emmène en Terre Sainte, on ira. Donc je demanderai une autorisation. Et c'est vraiment très très beau. Alors donc vous voyez, alors je prends la fin du chapitre 3, on a pris possession à l'Arnon. Alors et Moïse commence de filer du territoire à des tribus, aux Rubénites et aux Gadites, la moitié de la montagne de Galaad avec ses villes. La demi-tribu de Manassé, je donnais le reste de Galaad et tout Bashan, le royaume d'Og, la confédération d'Argob. Je vous donnais alors cet ordre, je suis verset 18, chapitre 3. Le Seigneur, votre Dieu, donc il parle aux mecs qui vont récupérer un bout de terre à l'est du Jourdain. Le Seigneur, votre Dieu, vous a donné ce pays pour domaine. Armés, vous passerez devant vos frères, les Israélites, tous hommes de guerre. Seuls vos femmes, vos enfants et vos troupeaux, car je sais, vos troupeaux nombreux, hein, pauvres riches, resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que le Seigneur ait donné repos à vos frères comme à vous-même et qu'ils possèdent eux aussi les pays que le Seigneur, votre Dieu, leur donne au-delà du Jourdain. Alors, vous retournerez chacun dans les domaines que je vous ai donnés. Donc, en gros, ça sera vos campements, mais enfin, vous allez venir avec nous pour faire la guerre. Vous allez laisser les femmes et les enfants et vos bestiaux chez vous, mais quand il va falloir conquérir le pays, on voit bien que ça ne va pas être simple. Vous allez venir avec nous, hein. Pas question que vous restiez, puis après, vous reviendrez chez vous quand on aura conquis la terre. Alors là, verset 23, donc Moïse... se dit, bon, des fois, le bon Dieu, il est content, puis en plus, on lui a donné des tas de vies dans la montagne. Hein, tous ces petits bébés, tous ces gens qu'on a passés au fil de l'épée, peut-être que ça attend le sort de Dieu, quelque part, hein, il s'est dit, parce que Dieu est amour, hein, donc... Et alors, donc, il va faire une tentative pour que Dieu revienne sur le châtiment, ce fameux châtiment qui frappe Moïse. Je demandais alors une grâce au Seigneur, je suis verset 23. Mon Seigneur Yahvé, voilà, je ne peux pas traduire Mon Seigneur, hein, mon Seigneur Yahvé, toi qui as commencé à faire voir à ton serviteur ta grandeur et ta puissante main. Qui, alors, point de suspension, donc, texte corrompu, pourquoi puissante main? Puisqu'on a commencé de démolir les armées de Og, de Sion, enfin tous ces salauds qui. Quel Dieu dans les cieux et sur la terre agit comme tu agis avec même puissance. Donc, donc c'est un peu ici les pompes du bon Dieu. Donc, il est... Ne pourrais-je passer là-bas et voir cet heureux pays au-delà du Jourdain, cette heureuse montagne et le Liban? Donc il essaye un truc. Mais alors ça va pas marcher. Hein. Le Seigneur dit, non, mais tu n'es pas pour qui, pas question. À cause de vous, le Seigneur s'irrita contre moi et ne m'exauça point. Il me dit, assez, ne continue plus à me parler de cette affaire. Ouais, quand les gens de 90 kg disent certaines choses aux gens de 60 kg. Hein? Non, ça c'est dans un taxi pour Tobruk, mais c'est peut-être. Je crois pas qu'il y ait. Je me souviens plus très bel mondo, les gars. Merci Florence. Donc là en gros c'est Dieu qui fait 90 kg et Moïse 60. Donc ne continue plus à me parler de cette affaire. Donc la messe est dite, hein, je te dis, tu vas pas entrer en terre promise. Alors il lui donne un petit quelque chose quand même. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, regarde de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain que voici. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le, confirme-le, car c'est lui qui passera à la tête de ce peuple, à lui de les mettre en possession du pays que tu vas voir. Donc, tu vas quand même voir le truc, d'autres consolations, mais tu ne vas pas y entrer. Puis nous sommes restés dans la vallée en face de Beth-Péor. Alors, pourquoi, à votre avis, cette insistance sur ces terres, cette partie à l'est du Jourdain, alors que ça ne fait pas vraiment partie de la terre promise, hein? Quel est l'enjeu? Pourquoi est-ce qu'on parle de...
sens là dans le contexte d'une relation post-exilique, parce qu'on a des idées de l'autre côté.
Voilà, c'est exactement ça. Bravo, il y en a un qui suit, donc c'est très bien. C'est exactement ça. Hein. Donc l'idée, c'est de dire, bon, ben, comment on fait pour tenir ensemble la centralité de la Terre. Mais enfin, on a quand même des Juifs alors, en Babylone, puis on commence à en avoir en Égypte aussi. Hein. Mmh. Et puis, parce qu'il y a Jérémie, et à l'époque de Jérémie, déjà, il est mort en Égypte. Donc on commence à avoir une grosse diaspora et qui va durer jusqu'à l'islam. Hein, en fait, hein, vous avez les Juifs d'un côté, et notamment après Alexandrie, à partir du 3e siècle, et puis Babylone, ça jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Et puis ensemble, vous avez la Terre Sainte. Mais alors comment on fait pour manifester la centralité de la Terre sans exclure les grosses communautés, plus nombreuses hein, d'ailleurs en termes de population, et aussi très très riches culturellement, puis même financièrement. Enfin, il faut bien qu'on intègre dans le récit le fait qu'elles ont un rôle à jouer. Alors on va manifester une solidarité, voilà, alors, un petit peu fictive, hein, mais c'est en gros, bon ben, vous allez conquérir la terre avec nous, même si votre maison elle est d'autre côté. Donc, voilà l'intérêt de cette voilà, signification de cette partie orientale. Alors, je suis au chapitre 4. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui, pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez, que vous entriez pour en prendre possession dans le pays que le Seigneur Dieu vous donne, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien. Hein, on est dans la dernière tranche, la tranche de pain. Et l'idée, c'est ce qu'on appelle la formule du canon. Donc on va quand même essayer, il faut quand même qu'à un moment donné, le livre s'arrête. Hein, on ne va pas rajouter encore une autre tranche. Pas un millefeuille. Hein, jambon, fromage, pain, ça suffit. Formule du canon, donc on va à un principe de clôture. Vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous l'ai prescrit. Alors voyez de vos yeux ce qu'a fait le Seigneur à Baal-Péor. Alors, ça c'est une sombre histoire où ils ont au Baal-Péor, ils ont fricoté, alors je crois que je me rappelle où c'est, dans le livre des nombres encore. Nombre 15 peut-être, je ne me souviens plus très bien. Enfin c'est un épisode où heureusement la gloire du sacerdoce, parce que il y a un petit salaud d'Israélite qui a fricoté avec une Moabite, alors qu'il a entraîné à faire des rites impies, bon, puis allez, après ils sont allés tous les deux dans leur tente, et bon, ben voilà, donc on imagine pourquoi, et alors il y a Pinhas qui était prêtre, qui a été saisi d'un zèle, et qui leur a balancé une lance, et il a transpercé les deux d'un seul coup. C'est le zèle, c'est l'origine des zélotes d'ailleurs, hein. Le zèle, c'est le mot, c'est celui qui a une force presque divine, parce que pour châtier l'impie. Tu as trouvé
Nombre 25.
Nombre 25, alors merci. Ah voilà, Israël à Péor, voilà, c'est ça. Le peuple se livra, donc je suis au livre des nombres, chapitre 25, on est toujours dans l'idée, préambule historique, on fait mémoire du livre des nombres. Le peuple se livra à la prostitution avec les filles de Moab. Elles l'invitèrent au sacrifice de leur dieu, que le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu. Non mais quel monde d'abrutis, ils n'apprennent rien, hein. C'est vraiment... le péché c'est bizarre, on n'apprend pas. On a beau savoir que c'est mal, pof, dès qu'il y a une Moabite, dès qu'il y a une petite idole, dès qu'on nous dit tu viens, il y a une petite fête, j'ai mon idole, j'ai de la musique, j'ai de la bouffe, open bar, on a beau savoir que c'est pas bien, on y va. Hein, ça c'est. Israël s'étant ainsi commis avec le Baal de Péor, la colère du Seigneur s'enflamma contre lui. Mais heureusement Dieu est amour. Le Seigneur dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple, empale-les à la face du soleil. Oui, c'est vrai que ça fait réfléchir. Hein. Ça, c'est quand vous voyez les mecs sur leur pieu. Bah oui, on adore un pieu. Celui qui vit par le pieu périra par le pieu. Hein. Donc, celui qui vit par le flingue périra par le flingue. Révérend, puis je jeter un œil à votre Bible. Ça, c'est dans le pieu. La colère du Seigneur se détourna d'Israël. Mais Moïse se dit, il vaut peut-être mieux quand même continuer. Parce que Dieu est amour, que chacun mette à mort ceux de ces hommes qui se sont commis avec le Baal de Péor. Survint un homme des Israélites amenant auprès de ses frères cette Madianite. Ah oui, c'est une Madianite, c'est pas une Moabite. Donc Madian, c'est plus au sud, hein, c'est la péninsule arabique. Enfin là, en l'occurrence, c'est pas bien. Hein. C'est des femmes païennes, hein, toutes ces celles-là, hein, c'est vraiment la grande menace. des yeux mêmes de Moïse et de toute la communauté des Israélites pleurant à l'entrée de la tente du rendez-vous. Vous voyez le truc, il y en a qui pleurent parce qu'ils se disent mais vraiment on a fait n'importe quoi. Il y a le mec là, il arrive, là, je vous présente Bobonne, c'est ma copine, elle vient de Madian. Donc le type, juste pas dans l'esprit, hein, on sent qu'il n'a pas du tout pigé, donc grand discernement. À cette vue, Pinhas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, la gloire du sacerdoce. Hein, j'aime beaucoup Pinhas, donc le prêtre. Se leva du milieu de la communauté, saisit une lance, suivit l'Israélite dans l'alcôve, et là il les transperça tous les deux, l'Israélite et la femme en plein ventre. Hein, oui, bon, c'est le moment dans quelle position ils étaient. Le fléau qui frappait les Israélites fut arrêté. 24 000 d'entre eux en étaient morts. Et c'est ce zèle jaloux de Pinhas qui a mis fin. D'où vous comprenez pourquoi aussi, à l'époque de Jésus, l'idéologie des Zélotes, merveilleusement mis en lumière par David Bryan. Hein. Donc ces groupes, ils sont sous le patronage de Pinhas. Il y a les Romains, c'est la galère. Il faut qu'on arrête ça et donc on reprend la lance. Alors, où c'est d'ailleurs qu'on a... Il y a un peu quelque chose de ça aussi dans l'histoire de Jésus, mais sous une forme très atténuée. Ah, alors, de fait, là, pour le coup, bonne référence, mais là, justement, Jésus, lui, t'as rien pigé, donc, pour Pierre, hein, je vois bien que tu es un évêque, tu n'as rien compris mon message, donc, on est certain que l'épiscopat dérive des apôtres à cet endroit-là, mais... Voilà, exactement, hein. Et chez Saint Jean, mais pas chez les autres, les disciples citent le psaume « Le zèle de ta maison me dévorera hein ». Donc il y a un aspect, c'est le moment zélote de Jésus, mais ça reste non violent quand même. Hein. Il y a quand même, donc oui à la sainte colère, mais faut pas faire couler le sang. Non, c'est pour ça qu'on est souvent, normalement dans l'ADN des chrétiens, on est réservé face à la violence, en théorie, hein, parce que quand vous allez voir ce qui s'est passé au Liban dans les années 80, les milices du général Aoun, les phalanges chrétiennes, enfin c'est une histoire très compliquée, hein, j'ai loin de moi l'idée de donner des bons et des mauvais points, parce que c'était vraiment très compliqué, mais enfin on n'aime pas, on est donc violent, je ne sais pas si vous étiez au courant. C'est une des valeurs chrétiennes, parce que l'extrême, et heureusement qu'il y a cet exemple-là, parce que sinon on aurait pu dire, après tout, puisque Jésus n'a rien dit, peut-être qu'il n'était pas contre, mais je trouve que cet exemple nous dit, ben voilà, le disciple n'est pas au-dessus du maître. L'extrême de ce que Jésus a fait en termes de violence, c'est de virer les marchands du temple, mais personne n'a été blessé. Voilà, donc il ne faut pas qu'on fasse plus, on n'est pas des bénis oui-oui, et par exemple, moi je peux me mettre en colère, hein. Je l'ai déjà eu, mais je deviens très vert, tout vert, énorme. Mes vêtements se déchirent, alors sauf heureusement. Non, enfin, bon, toujours est-il qu'on a le droit de se mettre en colère, mais il ne faut pas faire couler le sang. Vous voyez, c'est intéressant. Bon, voilà l'affaire du bal de Péor. Alors, Moïse en reparle. Hein. Vous voyez qu'il appuie là où ça fait mal. Hein. Le préambule historique dans un schéma d'alliance, c'est plutôt je t'ai fait du bien. Là, c'est un peu bizarre. En fait, c'est plutôt rappelle-toi comme t'es une crapule. Hein. Rappelle-toi toutes les conneries que t'as faites. Alors, quand ça marchait, c'est Dieu. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire, la morale de cette histoire, c'est que quand ça déconne, c'est toi qui agis tout seul. Et quand ça marche, si tu veux mettre ça au crédit du bon Dieu. C'est un peu comme ça que le Concile de Trente articule encore hein, la vie de la nature et de la grâce. Hein, finalement. Notre liberté par elle-même ne peut que quitter la grâce. Donc on veut agir seul, on est incapable de gagner la grâce par nos propres forces, mais on peut la perdre par nos propres forces. Par contre, pour l'obtenir, c'est un don de Dieu, hein. Le Seigneur combat pour toi. Alors, je reviens, alors il fait allusion à ça. Alors, il insiste là-dessus, justement, ça c'est aussi, je pense, l'idée, toujours pareil, hein, communauté de la Gola post-exilique. Il y a vraiment l'idée, et ça je trouve ça hyper beau, c'est que on va essayer de vraiment mieux faire. Ça c'est le début, ça c'est vraiment très beau, mais on voit ça dans plein de textes, aussi chez Ézéchiel. Enfin, on a pris conscience qu'on avait déconné, enfin c'est nous quand on sort de la confession. Pendant au moins 5 minutes, on croit qu'on va mieux faire. C'est vrai, hein. C'est horrible. Mais non mais vous êtes des saints, vous continuez mieux, moi je sais, c'est une catastrophe. J'arrive pas vraiment à me convertir, mais enfin bon. Mais pendant 5 minutes, on se dit on va vraiment partir sur une nouvelle base. On va pas refaire les conneries des pères. On sait qu'ils ont déconné. On sait exactement quoi, ce qui nous conduit au péché. On le sait. C'est écrit noir sur noir. Je peux le raconter par le menu. Quand je fais, je connais la fin et on va plus faire ça. Ça, c'est le climat spirituel du Deutéronome. Donc c'est beaucoup plus positif que le livre des nombres. Parce que le livre des nombres, c'est connerie sur connerie. Mais là, le Deutéronome, c'est la nouvelle alliance hein, en France. Donc on va. Alors on insiste, le préambule historique insiste sur la faiblesse de l'homme et la grandeur de Dieu, la force de Dieu, en espérant que c'est la force de Dieu qui finisse par rendre l'homme fidèle à Dieu. Donc avertissement, hein. Quiconque a suivi le Baal de Péor, je suis nouveau en Deutéronome 4, le Seigneur ton Dieu l'a exterminé du milieu de toi. Donc ils viennent, hein, nos amis, on les attend. Hein. Et ils vont arriver bientôt. Hein. Voici, je viens bientôt. Mais vous qui êtes restés attachés au Seigneur votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Ça, c'est prodigieux. On est content d'entendre ça quand même. Hein. Il parle à cette génération, donc c'est la Gola. Il dit, mais regardez, vous êtes passés, mais n'importe quel peuple, il serait mort 10 fois en fait. Hein. Et vous êtes vivants. Tant que tu es vivant, tu peux te convertir. Ça, c'est un message aussi plein d'espérance. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ça, hein. Mmh. Vois comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné, je vous ai enseigné des lois et des coutumes pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Gardez-les et mettez-les en pratique. Hein. Ça revient quand ça revient souvent à hein. Mettez-les en pratique, comme Jésus dans le sermon sur la montagne. Ça ne sert à rien de dire Seigneur, Seigneur, faut mettre en pratique. Ainsi serez-vous sages et avisés aux yeux des peuples. Quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils s'écrieront « Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui? Intéressant là, on a un thème un peu nouveau. C'est le fait que par rapport aux païens, c'est pas simplement des idiots comme Og et Sion qu'on a dû... estourbir, mais il y a aussi de la part des nations qui ne sont pas élues par Dieu, mais il y a quand même aussi une capacité à reconnaître dans l'élection d'Israël une espèce de sagesse supérieure, ce qui est aussi une exigence pour Israël d'ailleurs. Bon, ça c'est peut-être bon, je ne vais pas entrer dans la question politique de l'Israël contemporain, parce que cela encore c'est bien compliqué, mais c'est quand même un truc qui existe assez fort dans la pensée, dans la mentalité juive normalement, c'est le fait que les païens servent aussi de contrôle, et quand les païens, si Israël agit de telle sorte que les païens ne peuvent plus reconnaître qu'il y a une sagesse supérieure qui est à l'œuvre dans cette nation, alors c'est qu'Israël n'est pas fidèle à la loi. Après tout, Jésus reprend un peu cet argument, hein, c'est à l'amour, là, c'est chez Saint Jean, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes amis. Hein. Ou dans le sermon sur la montagne, il y a deux auditoires, les disciples, et puis aussi toutes sortes de gens, et puisqu'ils ont entendu ce que Jésus disait aux disciples, même si eux-mêmes ne sont pas disciples, ils peuvent parfois dire aux chrétiens, mais c'est pas bien ce que vous faites, vous n'êtes pas disciples, fidèles à votre maître. C'est toujours très désagréable quand ça arrive, mais même encore aujourd'hui, parfois on nous renvoie des trucs en disant, mais vous êtes des mauvais chrétiens, on a envie de leur dire de quoi tu te mêles, commence par, si tu veux nous critiquer, mais en fait non, la Bible dit c'est normal, oui, c'est un principe d'humilité ça, hein. Il n'y a pas besoin d'être membre de ceux qui sont élus pour avoir le droit de les critiquer au regard même de la parole. C'est désagréable, mais ça nous force un peu à faire des efforts. Hein, ça... Alors on affleure aussi le grand thème de la sagesse. La sagesse, alors là c'est... L'idée que la loi, alors tout à l'heure je disais immanence transcendance, hein, justice de Dieu, Moïse qui est vraiment de raison, paye pour les juifs, avec les autres israélites, ce serait plutôt transcendance de Dieu, et puis on cherche une raison immanence, donc les deux pôles. Là on a plutôt le pôle de l'immanence, la sagesse normalement c'est quelque chose qui est accessible justement à toute l'humanité, c'est comment on fait pour vivre sur cette terre en fait. Hein, sagesse, alors bon, ça, chez les Grecs ça viendra la philosophie, mais. Là, on n'est pas complètement paumé. On peut trouver par la réflexion, en s'inspirant même du règne animal, il y a des. Je vous vois vous dormir de plus en plus. Je suis désolé. je peux m'arrêter, il faut qu'on attende la bagnole, hein, de toute façon, mais...
Non, continue.
Bon. Mais vous avez faim, quand on a faim, on a sommeil. Donc, thème de la sagesse, alors la loi qui est surnaturelle, elle nous donne aussi la bonne manière de vivre sur la terre. C'est peut-être plus vrai dans le judaïsme que dans le christianisme, ça. Enfin, dans le judaïsme, c'est important. Il y a une sagesse de la loi. Et puis, alors là, commence à apparaître quelque chose de très important, c'est le décalogue. Donc, je suis au verset 10. Au jour où tu te tenais à l'Horeb, en présence du Seigneur ton Dieu, le Seigneur me dit, assemble-moi le peuple, afin que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tant qu'ils vivront sur la terre et qu'ils l'enseignent à leurs fils. Et vous, vous êtes alors approchés pour vous tenir auprès de la montagne. La montagne était embrasée jusqu'en plein ciel, ciel obscurci de nuages ténébreux et retentissants. Donc, toujours pareil, un feu et nuées. Le Seigneur vous parla alors du milieu du feu. Vous entendiez le son des paroles, mais vous n'aperceviez aucune forme, rien qu'une voix. L'idée, ça c'est aussi un truc assez propre au Deutéronome, c'est de récuser absolument toute forme visible de Dieu. La tradition sacerdotale est un peu plus ambiguë. Parfois on a l'impression que Dieu est quasi visible dans la tradition sacerdotale, mais pas dans le Deutéronome. Il vous révéla son alliance, qu'il vous ordonna de mettre en pratique, alors là, hyper important, les 10 paroles qu'il inscrivit sur 2 tables de pierre. Alors, premier truc important, l'alliance semble reposer finalement sur les 10 paroles. Alors que on va se farcir des chapitres et des chapitres qui t'expliquent que si tu trouves une colombe tombée du nid, tu dois manger la colombe et laisser les œufs, ou au contraire, que tu dois, beaucoup de règles parfois très précises. Et on nous dit, avant de nous dire ces règles, c'est comme si on désamorçait une espèce d'obsession de la totalité en disant, mais le cœur du cœur, c'est les 10 paroles. Hein. Dans le schéma d'alliance, ça correspond à quoi, rappelez-moi?
Ah, c'est les mentales.
Non, oui, enfin ça c'est moi qui dis ça pour le schéma d'alliance. C'est pas... Voilà, c'est les stipulations fondamentales. Je vous avais dit, parfois on distingue les stipulations fondamentales et les stipulations particulières. Et il semble là quand même assez nettement que dans le Deutéronome, ce qu'on n'a pas du tout ni dans le Lévitique ni dans l'Exode, hein, qu'il y a un peu deux statuts. Il y a la loi justement, il y a les 10 paroles qui suffisent à être dans l'alliance. Et puis après, quand on est sur la terre, tous ces commandements, donc... tu vas faire tel truc, tu fais machin, tu mélanges pas, toutes sortes de règles, mais qui sont importantes, mais qui n'ont de raison d'être que quand on est sur la terre. Mais alors quand on n'est pas sur la terre, est-ce qu'on est en dehors de l'alliance? Que répond le Deutéronome? Non. Alors toujours pareil, pourquoi cette insistance du Deutéronome sur qu'il y a quand même un noyau? Voilà, exactement, hein, ça garantit. Alors il y a quand même quelque chose qui est made in Jewish, hein, dans le décalogue. Tu ne tueras pas, bon ça n'importe qui fait ça, enfin n'importe qui, tout le monde sait. Mais il y a quand même un truc made in Jewish. Voilà, le Shabbat, dont on pense d'ailleurs qu'il a acquis son statut hebdomadaire en exil. Hein, quand on ne peut plus sanctifier l'espace, parce qu'on n'a plus de temps, on sanctifie le temps. Comme dit Abraham Heschel, c'est vraiment son nom, hein, ça va me permettre de faire un mauvais calembour, mais... Abraham Heschel dit les païens construisent des temples dans le temps et les juifs, non, dans l'espace et les... Je recommence. Les païens construisent des temples dans l'espace et les juifs construisent des temples dans le temps. C'est-à-dire construire un temple dans le temps, c'est honorer le Shabbat. Mais honorer le Shabbat, tu peux le faire que tu sois à Alexandrie, à Jérusalem ou à Babylone. Hein. Donc vous voyez qu'il y a quand même un marqueur juif, mais limité. Est-ce qu'il faut dire que le décalogue est universaliste? Non, le but c'est de garantir l'intégration dans l'alliance de tous les juifs. Mais évidemment, vous comprenez qu'après, quand les chrétiens vont rappliquer, c'est quasi, ils auront très peu à faire pour dire, en fait, le décalogue, c'est la partie de la loi qu'on garde. Est-ce qu'on a le droit de manger du porc, par exemple? Les chrétiens, oui. Est-ce qu'on a le droit de manger du sang? Non, ça c'est pas bien, faut pas. Faut pas, c'est interdit, non, c'est les boudins, non. Mais dans la Bible, on n'a jamais le droit, c'est pas le boudin, non. Si c'est du boudin à la châtaigne, ça, c'est vraiment très très bon. Donc, Mais vous voyez, c'est la question des chrétiens, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, en fait. Enfin non, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est valable, voilà. Qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui est pas valable. Ben, ils avaient, le Seigneur avait déjà préparé le terrain grâce au décalogue. Finalement, on est comme en diaspora, finalement. Les chrétiens, ça se rapproche beaucoup des juifs de diaspora. Il suffira de remplacer le Shabbat par le dimanche, hein, finalement. Tout ça, merveille. Et la chambre des parents, il faut bien la mettre au septentrion. Hein, parce que au septentrion, ton père et ta mère. Hein, c'est important. Donc jamais au sud. Toujours au nord, hein, la chambre des parents. Au nord, ton père et ta mère. Alors, puisque nos amis... mais enfin, soyez attentifs, ça, parce que là, c'est important. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple de l'univers. Ces fameuses deux tables. Alors, évidemment, vous avez tous en tête le film de Cécile B2000, hein, que j'ai jamais vu. Mais les deux tables, comment vous les voyez? Comme des grosses tranches de pain de mie, avec, sur une première table... Tiens, alors, décalogue, on va commencer, ça va vous réveiller. Premier commandement. Alors, il y a deux manières de compter les commandements, évidemment, toujours, mais on va prendre la manière de nous, la manière catholique. Alors, ça, c'est déjà pas dans le décalogue, donc ça, c'est le tour. C'est pas dans le décalogue, ça.
Ah, il n'y a pas d'autre Dieu.
Voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ensuite. Alors, chez les juifs, c'est. Mais justement, pour nous, on met tout ça dans le. C'est pour les... On va prendre la manière de saint Augustin. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, donc déjà, il ne faut pas se tromper de Dieu. Ensuite, par rapport à Dieu, il y a un bon et un mauvais usage. Voilà, très bien, ça a réveillé Marie, du coup, donc tu n'inventeras pas le nom du Seigneur en vain. Vous voyez que le deuxième suppose le premier. C'est une pente de Dieu. Et c'est comme un développement limité, hein. On ne va pas se battre pour les. Le terme en x puissance 10, si déjà on se plante sur x puissance 1. Donc c'est-à-dire pas se planter de Dieu, mais en plus, tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu. Ensuite, troisième commandement. Voilà, le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? C'est tu travailleras 6 jours. Hein, attention, hein, c'est d'abord ça, et le septième tu te reposes, mais c'est d'abord bosser 6 jours. Hein. C'est pas moins je bosse, plus Dieu est content. Hein. Ça, c'est le Shabbat des paresseux, ça. Hein. Alors, quatrième. Voilà, donc c'est ce que je disais, donc honore, je n'ai pas de boussole, mais enfin, donc honore ton père et ta mère, qui opère quand même comme une place centrale, parce que finalement. Voilà, exactement. Finalement, un des premiers visages de Dieu, c'est les parents. Et d'ailleurs, qui nous apprend quel est mon Dieu finalement? Qui m'apprend à prier mon Dieu?
Papa-maman.
Ouais, papa-maman, hein, c'est aussi bête que ça. Hein. Vous voyez, c'est. Alors, après, le cinquième commandement. Voilà, ça c'est pas bien. Enfin, ça des... et essaye d'éviter, disons. Voilà. Que ce soit un horizon. Donc, mais...
On a le droit, l'anathème, on a le droit, du coup.
Ah oui, non, mais c'est pas un meurtre. Hein. C'est pas rien à voir. Non,
c'est des païens,
c'est pas tu ne tueras point, hein. Attention. Hein. C'est tu ne commettras pas de meurtre. Oui. Non, pareil.
C'est prémédité.
Non, c'est pas ça. C'est que. C'est... par exemple, la peine de mort, c'est une obligation. La Torah, à certains moments, un mec qui blasphème, tu prends. Un caillou, tu le lapides, c'est tout, il n'y a pas... Voilà, Dieu est amour, hein. Donc tu ne commettras pas de meurtre. Alors, sixième commandement, le bien nommé.
Tu ne voleras pas ?
Non, le bien nommé, donc comment on dit en latin dans les traités de moraliste ? C'est le de sexto, donc...
Voilà, le bien nommé. Tu ne commettras pas d'adultère.
Voilà, le de sexto, donc tu ne commettras pas d'adultère. On sent, là encore, hein, il y a un peu l'idée, c'est le respect de la vie, alors le meurtre, c'est très direct. L'adultère, c'est aussi ne pas respecter la vie de manière un peu plus indirecte. Il y a quelque chose dans l'alliance de l'homme et de la femme qui porte atteinte à la vie. Si tu ne respectes pas le mariage, je dirais pas que c'est... Est-ce que c'est du plus grave ou moins grave? J'en sais rien. Je dirais plutôt qu'on va du plus manifeste. Alors le plus manifeste, c'est le gars qui se plante de Dieu, quoi, qui dit où tu vas, moi je vais offrir un sacrifice au Baal de Péor. Quoi. Le mec, alors vraiment... con comme un balai, quoi. Mais non, c'est pas notre Dieu. Ah merde, j'avais dit. Après, le type un peu plus malin, donc il dit alors je vais pas jurer. Enfin, invoquer en vain le nom de Dieu, ça serait faire des serments mal faits. Donc ça serait, je jure par Dieu que je sais pas, qu'on va remporter 10 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ouais, c'est un truc. Là, c'est invoquer en vain le nom de Dieu. Ça risque, je gage ma part. Puis en fait, surtout, c'est faire un serment alors qu'on n'est pas sûr. En fait, c'est ça, invoquer en vain le nom de Dieu. Et du coup, ça va miner la foi en Dieu. C'est un peu moins grave que... Mais enfin, à force de faire des serments, on va finir par se planter de Dieu. Vous voyez. Après, Shabbat, pareil. Vous voyez. Et puis, honore ton père et ta mère, si tu ne respectes pas tes parents, qui ne sont pas Dieu. On peut avoir des... Enfin, les pères... Hein, mon père buvait, ma mère louchait, hein, c'est la grande plaidoirie de tous les avocats au pénal. Hein, mon client, l'usine malheureuse, son père buvait, sa mère louchait. Donc. Mais enfin, il faut quand même les respecter parce qu'ils ils nous font connaître le Shabbat, par exemple. Hein, donc c'est un peu, je dirais que c'est pas que c'est du plus grave au moins grave, mais on va peu à peu aller du plus manifeste au plus caché. Peut-être que c'est le plus caché qui est le plus grave d'ailleurs, précisément parce qu'il est caché. Alors, le desexto, tu ne commettras pas l'adultère. Le septième commandement. Voilà. Les exégètes, mais il ne faut pas les croire, ils disent qu'en fait, à l'origine, c'est tu ne commettras pas de rapt. Bon, enfin, parce que ça se faisait à l'époque, c'est un peu, ouais, quand on manquait de femmes, on piquait les jeunes filles. Bon, enfin, autre temps, autre mœurs. Ah ben voilà. Et ben donc, vous ne saurez jamais la fin du décalogue. Allez, réveillez-vous. Non, ça c'est tout à la fin, ça.
Ah, c'est juste
avant. On verra après.
Tu ne convoitiras pas le bien de tes voisins.
Ça c'est le dernier, la convoitise, justement, la convoitise du cœur. Non, on verra. On fera ça la prochaine fois. Ah bah non, c'est pas moi qui vais oublier le décalogue. Hein.